Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à l'écoute des programmes de la CRTV Augustine Bassam à ce microphone. Bienvenue au journal. En vitrine dans le 20h de ce vendredi 22 novembre 2024, le Cameroun et la Deutsche Bank se donnent la main pour relier le Cameroun au Gabon. Le projet de construction de la route Olounou-Ovin est désormais sur les rails. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganondjou-Messi, instruit le respect du cahier de charge et des délais de livraison, soit 36 mois. Assemblée nationale, le projet de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun en pole position chez les élus de la nation. Il a été adopté en tête parmi les 12 projets en examen à la représentation nationale dans le cadre de la session budgétaire en cours. UPF, Evelyne Meng-Akung rempile à la tête de l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, pour un mandat de 3 ans renouvelable. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce jour à Yaoundé. La présidente de l'UPF Cameroun compte œuvrer pour l'amélioration d'une presse crédible. Une fois de plus, bonsoir et merci d'écouter le poste national de la CRTV. C'est le temps de l'information. Nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement, enlèvement du sous-préfet Dida Bato, département du Dian, région du Sud-Ouest, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024, aux environs de 2h du matin. Monsieur Ewane Roland, sous-préfet Dida Bato, localité située dans la péninsule de Bakassi, département du Dian, région du Sud-Ouest, a été enlevé dans son domicile ainsi qu'un agent communal, le nommé Etongo Ismaël, par un groupe de terroristes pirates lourdement armés venus d'un pays frère et voisin, selon les sources des autorités administratives locales. Le gouvernement de la République condamne avec force cet acte odieux, lâche et ignoble, perpétré par des individus sans foi ni loi contre des représentants de l'État. Il exprime sa profonde indignation face aux sévices corporels d'une extrême cruauté, au traitement inhumain et dégradant dont ce haut serviteur de l'État a été l'objet et que rien ne saurait justifier. De même, le gouvernement transmet aux membres des familles éprouvées et au-delà, aux populations d'Ida Bato, l'expression de la sympathie et du réconfort du président de la République, son Excellence Paul Biya. Enfin, le gouvernement entend faire savoir que tout est mis en œuvre pour préserver la vie du sous-préfet d'Ida Bato ainsi que son collaborateur et obtenir un dénouement heureux de cette scabreuse et malheureuse affaire. C'est signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Le président du Conseil national de la communication, Joseph Thiebon Kalaboutse, a présidé ce jeudi à Yaoundé l'ouverture d'une session de formation des journalistes et communicants. La dite formation de 2 jours porte sur l'usage responsable des outils de l'intelligence artificielle dans le traitement de l'information. La leçon inaugurale faite par le professeur Laurent-Charles Boyomo avait pour thème le défi de la transformation digitale et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine des médias et de la communication au Cameroun. Une formation qui regroupe les professionnels et organisée par l'association MedIA Laboratory en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert. Evelyne Meng Akung a été réélue ce vendredi à la tête de l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, par les membres de cette association pour un mandat de 3 ans renouvelable. À l'issue des travaux de cette assemblée générale élective pour une presse crédible, présidée par Jean Lambert Nain, représentant du ministre de la Communication, la présidente réélue enregistre 62 voix sur 62 électeurs. Dans son discours de circonstance, elle s'engage avec son équipe à œuvrer pour l'amélioration d'une presse crédible et les meilleures conditions de travail des journalistes. Je vous propose d'écouter Evelyne Meng Akung, présidente de l'Union internationale de la presse francophone section Cameroun, au micro de notre stagiaire Boris Lemamoum.
Nous allons poursuivre les chantiers qui sont en cours. Un de ceux-là nous appelle ici à l'édification, à l'aménagement du Press Club, la maison de la presse, la maison de tous les journalistes camerounais et même ceux de passage. Mais nous allons également travailler à renforcer la confraternité, à rendre plus convivial nos rapports entre nous professionnels, à essayer de mobiliser les énergies, qu'elles soient du privé ou du gouvernement, pour que les conditions de travail et de vie des journalistes soient meilleures, qu'ils aient accès à l'information et qu'ils puissent avoir accès à des formations qui les aident à faire face aux défis d'aujourd'hui. L'un de ces défis-là, c'est de gérer les réseaux sociaux, les fake news, de gérer également une sorte de déperdition, de défaitisme qui semble se saisir des jeunes journalistes qui se posent la question aujourd'hui, est-ce que je dois être journaliste ou pas. Nous voulons être le reflet d'une presse crédible et d'une presse vivante, une presse qui fait rêver, qui joue pleinement son rôle social.
Cameroun-Gabon, les travaux de construction de la route Olounou-Ovin, comptant pour la première phase, ont démarré ce vendredi dans la région du Sud. Emmanuel Nganou Djoumissi, ministre des Travaux publics, accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, était au lancement du 10 projet cofinancé par le Cameroun et la Deutsche Bank pour une durée de 36 mois. Depuis Ovin, Gilles-Claude Mbongitundi.
Pour partir de la localité de Olounou à celle d'Ovin, il faut compter plus de 2 heures en saison sèche et près de 4 heures en saison pluvieuse. Le futur tronçon routier va ramener le trajet à 40 minutes. L'ouvrage va s'étendre sur 70 kilomètres. Il va comporter une emprise de chaussée de 12 mètres. C'est une route à 2 voies et 2 accotements. Le projet global intègre 13 ponts, l'aménagement des carrefours ainsi que des équipements de sécurité. 20 localités et villages des arrondissements d'Ovin, Mvangan et Meyomessi vont être traversés par cette infrastructure. Le financement provient du gouvernement et de la Deutsche Bank Italie. Au total, plus de 62 milliards de francs CFA, 36 mois pour boucler le chantier. Le chef de projet en a pris l'engagement solennel. Aux côtés du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, quelques membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres Louis-Paul Motazé des Finances, Georges Elanga Obam de la Décentralisation et Armand Jodom, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, chargé des routes. Plus tôt dans la journée, les perturbations de la circulation ont ralenti le convoi des ministres à Mbalmayo dans le département du Nyon-Esso. D'après les informations recueillies auprès d'un gendarme en service, un porte-char a percuté mortellement un élève qui se rendait à l'école. Les ministres Emmanuel Nganou Djoumessi et Louis-Paul Motazé ont marqué un temps d'arrêt pour exprimer leur réconfort face à cette tragédie. La vidéo amateur de ce moment de réconfort a été récupérée par la désinformation. La présence des ministres sur les lieux du drame attribue faussément la responsabilité de cet accident au convoi des membres du gouvernement en route pour la région du Sud. Depuis Ovin, Gilles-Claude Mbongitundi, CRTV.
La conférence annuelle des services centraux déconcentrés et sous tutelle du ministère de la Santé publique s'est tenue cet après-midi au Palais des Sports de Yaoundé. Les travaux placés sous le thème de la transformation du système de santé et les objectifs de développement durable, l'urgence d'accélérer la viabilisation du district de santé, étaient présidés par le ministre de la Santé publique. Dans son allocution de circonstance, le docteur Manaouda Malachi a souligné l'importance de dynamiser les districts de santé pour une amélioration efficace du système de santé publique au Cameroun. Je vous propose d'écouter le ministre Santé dans cet extrait d'allocution sélectionné par Coralie Laetitia Eminé.
La viabilisation du district de santé est le cœur des échanges de ce jour. Le district de santé est l'unité opérationnelle du ministère de la Santé publique. Aussi, lors de cette conférence, nous avons abordé l'évaluation des performances. Chaque service central et déconcentré a présenté son bilan Et nous avons mis l'accent sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, mais surtout sur les défis rencontrés. Il y a où la responsabilisation des acteurs avec des mécanismes de suivi et des mesures correctives qui seront discutées et qui vont faire l'objet, au fur et à mesure que nous allons évoluer, du renforcement de la redevabilité. Les comportements ou pratiques indélicats sont toujours et seront toujours l'objet de sanctions appropriées. Il y a eu la définition des priorités stratégiques où nous avons concentré nos efforts sur les axes clés pour 2025 en alliant nos priorités, nos actions sur la stratégie nationale de développement 2030, la SND 30. Et il s'agit principalement d'accroître également significativement la proportion des districts de santé viables.
Assemblée nationale, le tout premier projet de loi parmi la douzaine déjà reçue par la représentation nationale au cours de cette session budgétaire a été adopté ce vendredi. Il s'agit du projet de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Ce texte, défendu par le ministre de la Santé publique, a reçu l'onction de la Chambre entière au cours d'une séance plénière présidée par l'honorable Kombo Kéberi, l'un des vice-présidents de la Chambre. Le compte rendu de Pauline Deauville Mendoza-Mbassi.
La discussion générale a commencé par la lecture du rapport de la Commission des affaires culturelles, rapport déroulé par l'honorable Koum Diondji, un document d'une vingtaine de pages retraçant tous les débats ayant eu lieu lors de l'examen au fond du projet de loi portant organisation et exercice de la médecine traditionnelle au Cameroun. Puis le temps est venu pour les échanges, pas grand-chose sur ce projet de loi qui reçoit l'approbation de tous ou presque. Six députés se sont succédés au pupitre, soit pour apprécier l'avènement de ce texte au Parlement, soit encore pour sonder d'autres activités dans le secteur de la santé, couverture santé universelle, la vente des faux médicaments dans la rue, et bien d'autres sujets encore. Manaouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé publique, répond.
Nous sommes en plein dans la couverture santé universelle, notamment dans le cadre de la phase 1. Et j'ai donné d'ailleurs un certain nombre de statistiques et de feedback que nous avons sur le terrain, parce qu'on a fait réaliser environ une trentaine de capsules. Pour les faux médicaments, nous continuons à lutter. Il faudra peut-être déjà que nous coupions les entrées, que ça ne rentre plus sur notre territoire, qu'ensemble, tous les acteurs puissent se jeter dans la bataille pour que nous puissions gagner.
Au terme d'un échange de près d'une heure, le projet de loi portant organisation et exercice de la médecine traditionnelle, un texte de 7 chapitres, 44 articles, a été adopté, d'abord article par article et ensuite dans son entièreté.
Au cours de cette séance plénière, quatre membres du gouvernement étaient face à la représentation nationale. C'était dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions orales. Le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense s'est appesanti sur les cas de radiation et autres disqualifications dans les opérations de recrutement des soldats. Leurs frais de dossier leur seront-ils remboursés ou encore y aura-t-il des poursuites judiciaires à l'encontre des faussaires? Je vous propose d'écouter Joseph Betty Assomo dans cet extrait sélectionné par Pauline Deauville Mendoza-Mbassi.
Les demandes de remboursement éventuelles des frais de concours par les candidats faussaires seront considérées comme des actes de provocation, des actes de défiance ou de bravade vis-à-vis des pouvoirs publics et seront traités comme tels. Surtout que dans certains cas, le recours aux faux diplômes était doublé de falsification des âges et dans certains cas même des usurpations d'identité. À bon entendeur, salut.
Passées de 14 minutes sur le poste national de la CRTV. Mesdames et messieurs, vous écoutez le journal. Les bonnes pratiques agroécologiques pour la production de qualité et en quantité du cacao en vitrine au cours des journées portes ouvertes qui rassemblent depuis hier à Ibebda dans le département de l'Allier qui est à l'initiative du projet d'appui au développement du cacao et du conseil interprofessionnel du cacao et du café, producteurs et autres opérateurs de la filière. Le coup d'envoi officiel de cet événement a été donné par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbairobi, que je vous propose d'écouter au micro de Christelle, Nelly Christelle Ondoa, CRTV Centre.
Très content d'avoir assisté à ces journées portes ouvertes du cacao ici à Ebebda. Nous avons profité de cette occasion pour marquer notre réponse à la très haute interpellation du chef de l'État qui disait « Le temps est venu pour lancer l'agriculture moderne qu'il appelle de tous ses voeux ». Nous voulons profiter de l'embellie de ces prix de cacao pour permettre des investissements dans les exploitations cacaoyères pour augmenter la productivité et la production, mettre en place des systèmes qui permettent de résister aux effets négatifs des changements climatiques, à savoir la pression parasitaire et la sécheresse, pour mettre en place des champs modernes irrigués en utilisant l'énergie solaire pour produire des clones qui sont des variétés nouvelles qui permettront à la productivité de notre cacao de passer de 500 kg à plus d'une tonne 5 à l'hectare du cacao sans déforestation.
Les travaux du tout premier forum régional agroécologique dans le bassin du Congo se sont refermés à Yaoundé. En marge des assises, s'est tenue la foire nationale des produits bio à l'esplanade du boulevard du 20 mai. Cette exposition mettait en vitrine des engrais, des produits bio et des machines agricoles. Notre reporter Eliane Matingou m'a fait le tour. Voici son reportage.
Fruits et légumes, tubercules, champignons comestibles, engrais bio et machines agricoles sont en vitrine au boulevard du 20 mai. Ces agriculteurs utilisent pour leur culture les techniques d'agriculture biologique. Marco Tassem, directeur de l'association Edelife.
J'ai créé l'association intelligente de culture, c'est-à-dire une manière de combiner les cultures pour qu'elles puissent s'auto-protéger. Par exemple, la laitue que vous combinez avec le poireau. La laitue nourrit le poireau et le poireau protège la laitue contre les insectes.
Après les récoltes de ces produits naturels, d'autres associations s'occupent de leur commercialisation via les réseaux sociaux. Anne-Marie Abisségué, fondatrice de la société Anno Marché Frais Bio.
Nous composons des cagettes chaque semaine à base de fruits et de légumes, 4 à 5 légumes, 2 à 3 fruits, 4900 francs pour cette composition.
Également au menu, la promotion des semences paysannes dans la sous-région. Pierre Essomé, membre du réseau des acteurs de développement durable.
Nous avons les semences d'arachide, haricots, tournesol, maïs, que nous avons le peum séché, le corps séché, fort long.
Plusieurs machines pour la mécanisation agricole sont exposées à cette foire. Claverin Thiemo, formateur.
Nous proposons des machines comme des tarières, les motoculteurs, motobineuses, les débroussailleuses, les perches pour faire l'élagage, pour la récolte des palmiers.
Les agriculteurs, éleveurs bio et transformateurs mettent tout en œuvre pour une prise de conscience collective et une incitation à la consommation des produits sains pour la bonne santé de tous.
Développement et encadrement de l'économie bleue au Cameroun, les acteurs impliqués dans le secteur maritime font le point à Douala. C'est en vue d'élaborer la stratégie nationale sur la gouvernance des océans, une initiative du ministère des Relations extérieures. Georges-Alain Eyango, CRTV Littoral.
Dans une configuration où les deux tiers de la planète Terre sont constitués par des eaux, la gestion efficiente des ressources océaniques et maritimes ne doit plus attendre. Conscient du fait, les différents acteurs impliqués confrontent leurs expériences pour une rédaction harmonisée de la stratégie nationale sur la gouvernance des océans. Docteur Joseph Alain Batouan, expert juriste.
Le développement du Cameroun passera par une bonne exploitation de ses ressources maritimes et océaniques. Donc c'est un élément important pour le développement de notre pays. Il faudrait que nous capitalisions déjà ce potentiel économique et que nous l'exploitions pour le long terme.
Simon-Pierre Mbabida, chef d'antenne protocolaire et consulaire du Minirex à Douala.
En même temps que nous implémentons les ODD 2030, nous sommes également en train de mettre en œuvre l'agenda 2063 des Nations Unies. Et de ce point de vue, le Cameroun doit élaborer sa propre stratégie avec ses propres réalités pour que ce soit adapté et que les populations qui sont concernées soient touchées.
Les échanges présidés par le secrétaire général des services du gouverneur du littoral, Aboubakari Amanchoutou, s'inscrivent ainsi dans l'optique de la planification d'une gestion durable des ressources maritimes devant être bénéfique aux populations locales et même à l'ensemble de l'écosystème. Sous l'expertise des Nations Unies, les cadres juridiques et socio-économiques du plan national à venir de la gouvernance des océans devront être bien définis dans le document en voie d'élaboration. Douala, Georges Alain Yango, CRTV.
Fin de la 6e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun, sensibilisation dans les établissements scolaires, coaching d'entreprise, journée portes ouvertes et débats étaient au menu des activités organisées autour du thème « La culture entrepreneuriale comme catalyseur de l'auto-emploi et du développement économique dans les collectivités territoriales décentralisées ». Initiative qui, pour le directeur des petites et moyennes entreprises, permettra la promotion de la culture d'entreprise auprès des populations. Sylvie Chana-Sanguet est au micro de Toussaint Bemania.
Alors, il était également question de pouvoir valoriser l'entrepreneuriat local qui était fait dans les secteurs prioritaires qui ont été mis en avant par la Stratégie nationale de développement. Et à travers cela, nous sommes allés un peu plus profond pour voir dans le secteur de l'agro-industrie, du coton textile, de la confection, du cuir, ainsi que de la transformation du bois, tout ce qui avait été déjà élaboré par nos différents entrepreneurs, de voir leurs besoins essentiels qui sont parfois matérialisés par les besoins en équipement de production, les besoins de certification, les besoins liés à la normalisation, mais également les besoins liés à leur accès sur les marchés aussi bien locaux qu'internationaux. À côté de cela, il fallait donc essayer de promouvoir ou alors de primer cette dynamique-là. Ça nous a permis donc de pouvoir valoriser ces entrepreneurs à succès qui ont présenté des produits assez spécifiques et variés qui pouvaient permettre justement aux autres jeunes qui se lancent dans ce volet-là de pouvoir effectivement avoir une référence en termes d'initiative entrepreneuriale pour pouvoir se développer.
Fin ce jour du colloque national sur la thématique paix et sécurité organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de l'agenda du plan d'action national a regroupé des jeunes venus des 10 régions du pays. Compte rendu, Samuel Maliki, CRTV Centre.
Ce colloque de 3 jours avait pour but d'analyser les étapes franchies dans la participation des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix et d'engager des échanges sur la finalisation du plan d'action national jeunesse, paix et sécurité, ainsi que sur la stratégie de mise en œuvre pour la population camerounaise. Fadimatou Yawa Ousmanou, présidente nationale du Conseil national de la jeunesse.
Il a été question de pouvoir enrichir le travail qui a été fait par les consultants experts et les juniors consultants, mais aussi d'apporter une contribution forte avec la jeunesse camerounaise, par la jeunesse camerounaise et en faveur des jeunes camerounais.
Le rapport de démarrage du processus d'élaboration a été fait par le professeur Jean-Emmanuel Pondi.
C'est un plan d'action national, donc les 10 régions sont concernées et les particularités dans chacune des régions doivent être prises en compte pour qu'on arrive à un plan qui s'adresse effectivement aux problèmes de chaque citoyen jeune à son niveau et selon son contexte.
En clôturant les travaux, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Zaché Robert Théophile Benga, a, au nom du ministre en charge de ce département ministériel, recommandé aux jeunes de s'impliquer dans ce processus engagé au niveau national pour la restauration et la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Cameroun.
La journée mondiale de l'enfance jouait les prolongations ce vendredi à Monatélé, dans la région du centre. La place des fêtes a abrité cet après-midi la course du futur, un événement organisé par le Fonds des Nations pour l'enfance en collaboration avec la commune de Monatélé. Reportage Landrine Djanga, de retour de Monatélé.
Dans une ambiance conviviale, la population de Monatélé célèbre le triomphe de Ange Ndomoguet, élève en classe de seconde ESF au lycée technique de Monatélé, qui vient de remporter la première édition de la course du futur version féminine organisée dans cette localité.
Je suis dans la rue, au quartier, je vais sensibiliser mes amis, mes camarades, que tout le monde a un voix.
Côté masculin, c'est l'élève Bertrand Ongba de la classe de 3e année électricité dans le même établissement qui s'affirme.
Hier, les gars, c'est compétition. Je vais les amener à pratiquer le sport et à respecter les droits de l'enfant.
Au-delà du jeu, l'enjeu est grand, explique Nadine Perrault, représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Cameroun.
Nous avons décidé que cette année, nous allons faire des activités là où l'UNICEF n'est pas souvent présent physiquement. Nous sommes venus à Monatélé et nous sommes heureux que les autorités locales aient embrassé cette activité. C'est pour aussi sensibiliser les enfants sur leurs droits et sur ce qu'eux, ils ont à faire comme citoyens.
Une initiative saluée par Sa Majesté parfait Prosper Mbassibessala, maire de la commune de Monatélé.
L'UNICEF est venu encourager les efforts de la commune de Monatélé à travers ses promotions des droits de l'enfant, l'éducation, les actes de naissance, la santé, tout ça à quoi s'attelle à promouvoir.
Pour le représentant du préfet de la Léquier, cet engagement de l'UNICEF aux côtés des enfants de la Léquier leur permettra à coup sûr d'être des citoyens modèles pour le Cameroun de demain.
Pauline Irène Nguyen, le ministre des Affaires sociales, effectuera en compagnie de ses homologues des travaux publics de l'habitat et du développement urbain, de la décentralisation et du développement local et des marchés publics lundi prochain à 10h, une visite guidée de certaines infrastructures et édifices ouverts au public en vue de mesurer l'accessibilité universelle et la prise en compte de l'approche handicap dans lesdites structures. Il s'agit notamment des immeubles sièges de l'Assemblée nationale, de l'Agence de régulation des télécommunications ART et du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger. Cette activité marquera le lancement officiel de la 33e édition de la Journée internationale des personnes handicapées 2024 sous le thème « Accentuer le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». À l'étranger, à Guangzhou, chef-lieu de la province du Guangdong, au sud de la Chine, la diaspora camerounaise dispose désormais d'un lieu de rassemblement permanent. Les clés des deux appartements de 120 mètres carrés sont officiellement été remises ce vendredi par Wu Weihua, le président de l'espace marchand de Yulong, un autre marqueur visible de l'excellence des relations entre le Cameroun et la Chine. Écoutons à ce sujet le docteur Hervé Kuaté, le président de la communauté camerounaise du Guangdong, qui s'exprime au micro de Clovis Tiamabo, notre envoyé spécial en Chine.
Nous avons travaillé durement, mon équipe et moi, pendant plusieurs années. C'était pas facile de résoudre nos problèmes dans un endroit fixe. On passait d'un bureau à un autre. Nos rêves sont devenus réalité. Nous avons pu signer avec le président de Yulong Plaza, Mr. Wu, ce mémorandum qui nous permet d'avoir plus de 120 mètres carrés, un espace uniquement pour le CCDC, la communauté camerounaise de Guangdong Chine, où nous allons pouvoir nous rassembler pour avoir les différents meetings de stratégie, de planification, un espace où nous allons présenter les produits africains, les produits camerounais, la culture camerounaise. Ce sera également un espace d'éducation pour nos enfants, pour les adultes, de workshop. On pourrait dire une façon de cristalliser ce consulat que nous avons reçu la nouvelle.
Passé de 27 minutes sur le poste national de la CRTV, mesdames et messieurs, le 20h s'achève. À retenir, le Cameroun et la Deutsche Bank se donnent la main pour relier le Cameroun au Gabon. Le projet de construction de la route Olounou-Ovin est désormais sur les rails. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoundjoumessi, instruit le respect du cahier de charges et des délais de livraison, soit 36 mois. Assemblée nationale, le projet de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun en pole position chez les élus de la nation. Il a été adopté en tête parmi les 12 projets en examen à la représentation nationale dans le cadre de la session budgétaire en cours. Et puis UPF, Evelyne Meng-Akon rempile à la tête de l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, pour un mandat de 3 ans renouvelable. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce jour à Yaoundé. La présidente de l'UPF Cameroun compte œuvrer pour l'amélioration d'une presse crédible. Le 20h, c'était une mise en onde de Désiré Melingui, Christine Victoria Penda à la réalisation, Augustine Bassam à ce microphone. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à l'écoute des programmes du poste national de la CRTV. Bonsoir.